Vous écoutez RFI, il est minuit et demi ici à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous, à la une de cette édition, le dernier jour de campagne au Tchad avant la présidentielle de lundi. Parmi les 10 candidats, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre, Succès Massra, ils ont tenu leur dernier meeting aujourd'hui à N'Djamena. Qui a bombardé le camp de déplacés de Mugunga dans l'est de la République démocratique du Congo? Les États-Unis accusent le Rwanda, Kigali répond et qualifie cette accusation d'absurde. Le bombardement a fait au moins 9 morts. Il soulève une vague d'indignation en RDC. Dans l'actualité également, des nuages sur la croissance économique sénégalaise. Les prévisions du FMI, le Fonds monétaire international, sont revues à la baisse pour 2024. Enfin, les sports et le cyclisme. Le 19e tour du Bénin, remporté comme l'an dernier par le Marocain Achraf Ed Dogmi. La campagne électorale au Tchad s'achève à minuit d'ici une demi-heure à peu près. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes lundi pour désigner leur président. Une élection qui doit mettre un terme à la transition. Les deux principaux rivaux, le président de transition et fils de son prédécesseur, Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre, Succès Massra, ont tenu leur tout dernier meeting de campagne aujourd'hui dans la capitale, N'Djamena. Mais la plupart des Tchadiens espèrent surtout que le vainqueur réglera leurs problèmes quotidiens, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité, et également régler le problème du coût de la vie. C'est un reportage de Carole Valade.
En ce dernier jour de campagne, Outmane Barka a eu la bonne surprise de recevoir chez lui de l'électricité.
Presque même un mois avant qu'on nous amène l'électricité. Et il faut voir aussi comment mes enfants, en train de crier « Wow, l'électricité, ils ont amené l'électricité !» C'est devenu luxe maintenant.
Mais le robinet, lui, reste désespérément sec.
On a l'électricité pour le moment, mais l'eau, non. Vous voyez, c'est ouvert même. Au président qui serait élu, je lui demande seulement l'eau et en même temps l'électricité.
Outmane est le propriétaire du bar Petit Coin Rénové, une institution dans le quartier Kébalaï, alimentée par un groupe électrogène, mais qui n'est pas assez puissant pour faire tourner le congélateur.
On est en train de charger les bières. S'il y a l'électricité, on va brancher aussi le frigo. Mais il n'y a pas l'électricité, on est obligé de travailler avec de la glace.
Alors que le thermomètre affiche 46 degrés, le prix de la glace a été multiplié par 4 ces derniers temps. Les dépenses liées au manque d'électricité lui reviennent au total à plus de 1000 euros par mois.
S'il n'y a pas mes ventes, là on ne peut pas s'en sortir. Là on va tourner dans le perte. Il y a beaucoup de bars qui ont fermé.
Tandis que les militants des différents partis défilent devant le Petit Coin, Outmane, qui se dit apolitique, ira tout de même voter lundi pour, dit-il, de meilleures conditions de vie. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Vague d'indignation en République démocratique du Congo après l'explosion vendredi de plusieurs roquettes dans un camp de déplacés au sud-ouest de la ville de Goma, dans l'est du pays. Le gouvernement de Kinshasa et la diplomatie américaine accusent le Rwanda d'être à l'origine de ce bombardement qui a fait une dizaine de morts parmi les civils et plus d'une trentaine de blessés. Des accusations aussitôt récusées par Kigali. Lucie Mouyou.
Des conclusions ridicules et absurdes, commente la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo en réponse aux déclarations du département d'État américain qui condamne un bombardement mortel ce vendredi en périphérie de Goma, d'après Washington, en provenance des positions de l'armée de Kigali et du groupe rebelle du M23. Les RDF, une armée professionnelle, affirme la porte-parole sur le réseau social X, n'attaquerait jamais un camp de déplacés internes. Selon elle, il faut regarder, je cite, les criminels FDLR et Wazalendo soutenus par les FARDC pour ce genre d'atrocité. Fin de citation. Des accusations contre les forces pro-gouvernementales congolaises également formulées par le groupe du M23. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables des bombardements alors que les humanitaires dénoncent depuis plusieurs mois la proximité des positions d'artillerie avec les camps de déplacés. Lucie Mouyou, Kigali, RFI.
Bonjour, la capitale de la Gambie accueille un sommet des pays musulmans à l'occasion du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Plusieurs dizaines de dirigeants ont commencé à se réunir ce samedi et demain dimanche. Une résolution sur le Proche-Orient et sur Gaza est attendue à la clôture de la réunion. La Gambie, où l'excision est interdite depuis 2015, mais un député a déposé début mars un projet de loi pour le retour à la légalité légalité de cette pratique. Une proposition de texte fermement rejetée par de nombreuses associations, notamment par le collectif africain contre l'excision. Il appelle, je cite, à assiéger l'Assemblée gambienne contre les décisions criminelles à l'encontre de nos filles. Fin de citation. Écoutez, Mam Sira Konaté, elle est secrétaire générale de ce collectif.
C'est un sentiment de peur qui nous habite, parce qu'on se dit, si on commence à perdre les acquis pour lesquels nos mamans se sont battues pendant plusieurs années, ça devient très dangereux pour nous. Et c'est de dire non par des actes posés à l'abrogation de la loi contre l'excision en Gambie, et aussi lancer une campagne de sensibilisation et préparer une caravane pour aller jusqu'en Gambie et sur le fond faire un sitting. Mais la première chose qu'on voudrait faire, ce serait de convaincre le président de la République gambienne, Monsieur Barrot, de faire retirer cette proposition de loi. Parce que dans un hémicycle où on compte que 4 femmes, évidemment, on est consciente du fait que si jamais cette proposition de loi est votée, elle sera adoptée. Si on laisse faire en Gambie, qui est dans le Sénégal, mais des familles sénégalaises pourraient aller en Gambie et faire exciser leurs filles. On fait appel à toutes les forces vives pour la défense des causes de la femme, toutes les structures qui se battent contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Mam Sira Konaté répondait aux questions de Guillaume Thibault. L'économie et les prévisions de la croissance du Sénégal pour 2024 revues à la baisse par le FMI. Une équipe du Fonds monétaire international vient d'achever une mission d'une semaine dans ce pays, un mois et demi après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, ancien opposant. Et c'est un bilan en demi-teinte. À Dakar, Théa Olivier.
Les conclusions de l'équipe du Fonds monétaire international, le FMI, qui a rencontré le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, sont plutôt mitigées. D'un côté, elle se félicite de la résilience de l'économie sénégalaise qui a connu une croissance de plus de 4% en 2023, ce qui a dépassé les attentes. Pourtant, au premier trimestre 2024, la croissance a été plus faible que prévu à cause des tensions politiques liées à l'élection présidentielle et à cause du démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre prochain. Le FMI a donc revu à la baisse la croissance économique pour 2024, passant de plus de 8% à seulement 7%. L'organisme international recommande alors aux nouvelles autorités de prendre des mesures ambitieuses pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses. De nouvelles discussions sont prévues en juin prochain pour la seconde revue du programme soutenu par le FMI, un programme que les nouvelles autorités se sont engagées à poursuivre. Théa Olivier, Dakar, RFI.
En bref, des plages désertes au Kenya et en Tanzanie. Aujourd'hui, 2 pays placés en état d'alerte face au cyclone Idaya. Pas de victimes ni de dégâts signalés cet après-midi, alors que le cyclone a touché terre en Tanzanie depuis l'océan Indien. Le département météo du Kenya a lui indiqué dans un bulletin que les effets du cyclone étaient déjà ressentis au large, avec des vents dépassant les 75 km/h et des vagues de plus de 2 mètres. Le sport, le Marocain Achraf Eddoghmi a remporté à Cotonou la 5e et dernière étape du Tour du Bénin ainsi que le classement général de l'épreuve. Et il repart comme l'an dernier avec le maillot jaune, vainqueur cette fois de la 19e édition du Tour du Bénin. Il est loin devant les coureurs béninois, pourtant représentés par 2 équipes. Il faut descendre à la 25e place pour voir apparaître le premier d'entre eux. Il s'agit de Rémi Sowou et qui est à plus de 5 minutes du vainqueur. Un décalage très important, mais pas question pour l'entraîneur Fernand Gandao d'accabler les cyclistes béninois. Il affirme que leur niveau reste élevé. Fernand Gandao, qui est entraîneur de la formation La Béninoise et qui répond aux questions de Théophile Aza.
En ce qui concerne le comportement des coureurs béninois, je suis satisfait parce que ce tour est d'un grand niveau où il faut comprendre que hier, on avait fait plus de 46 km/h à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, on a fait également la même chose. Les Burkinabés qui avaient l'habitude de venir gagner chez nous n'ont pas pu trouver une seule étape. Mais je peux déjà dire, malgré les entraînements que nous avons eu à faire, nous avons rencontré des professionnels et c'est ça qui nous permet de grandir, de faire des corrections pour les jours à venir.
À propos écrit par Théophile Aza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est 00:40 ici à Paris, 22h40 en temps universel. Bonne soirée.